Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur, et j'espère à nous le beau futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Les derniers mots de la dernière chanson, c'était à toi de recoller les morceaux. Fait que ça tombe bien, là, je vais essayer de recoller là, avec vous. Là. Tampa Bay, Orlando, ça vous dit quelque chose? Sherbrooke, ça vous dit quelque chose? Ouais, OK. Fait qu'on est chanceux. Il n'y a personne qui est venu nous chercher en bateau ce matin pour sortir de chez nous, si on pouvait sortir. Et puis, d'autre part, la chanson tout à l'heure disait « marcher, marcher tout seul », mais il y en a une gang à Tampa Bay qui ne peuvent pas marcher en ce moment. À peine peuvent-ils nager. Alors, il fait sombre. Mais il ne faut pas oublier que le soleil est derrière les nuages. Si je dis ça, c'est parce que en lisant un article ce matin, il faut agir maintenant sur la détresse silencieuse des jeunes du Québec. Il est dit que c'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors, je vous souhaite une bonne journée mondiale de la santé mentale. L'article propose une approche proactive pour un avenir en santé. Il dit aussi que le coût de l'inaction, c'est de 18 milliards de dollars par an, que les mesures de confinement n'ont pas aidé du tout les jeunes, parce que dans une période cruciale de la socialisation, ils n'ont pas pu justement socialiser. Alors, l'article dit que les jeunes Z et Y, 48% déclarent avoir vécu un épisode dépressif. Alors, je suis désolé pour vous et je souhaite qu'il va y avoir justement une approche proactive pour un avenir en santé. Et l'article a été signé par beaucoup de gens, par exemple Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec, Mégane Joyal, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, Émile Simard, président du Comité national des jeunes du Parti québécois, Delphine Lavant de Levac, responsable des communications et mobilisation du mouvement jeune et santé mentale. Alors, je vous encourage à aller lire cet article-là dans Le Devoir. Il faut agir maintenant sur la détresse silencieuse des jeunes du Québec. Et puis, un autre article a attiré mon attention. Tu sais, je ne suis pas sûr que j'ai bien fait de regarder Le Devoir ce matin. Là. Fait que ça s'appelle « Le Québec n'est pas à l'abri de pénurie d'eau ». Il pourrait y avoir des inondations ici parce que l'eau devient de plus en plus imprévisible. Les signaux d'alarme sont impossibles à détecter parfois. Et puis, dans un nouveau rapport de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, il y a une aggravation à l'échelle planétaire de l'insuffisance des ressources d'eau. Le débit de 50 % des cours d'eau du globe a été inférieur à la normale l'an dernier. 3,6 milliards de personnes ont un accès insuffisant à l'eau, au moins un mois par an. Et leur nombre devrait dépasser 5 milliards d'ici 2050. C'est le fun, hein? Blablabla. Et c'est pas si fun que ça, mais au Québec, on pense que c'est inépuisable. Il faut se méfier, dit François Antil, professeur titulaire au département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval. Alors, il faut apprendre à gérer l'eau, à en prendre soin, à l'aimer, à la protéger, à l'apprécier. Et ça me fait penser au concept de littératie. Tout à l'heure, je vais vous parler d'une journée à laquelle j'ai assisté avec mon ami. Et c'était une journée sur la sécurité alimentaire. C'est là que j'ai entendu parler de littératie alimentaire. Auparavant, j'avais entendu parler de d'autres sortes de littératie. Si bien que, je sais pas, je fais une synthèse de ce que je sais, là. Ça prend une nouvelle littératie en efficacité énergétique. Et depuis l'article de ce matin, je me suis dit, ça en prend une en efficacité de la gestion de l'eau. Et puis une littératie, la question du climat, et la littératie informatique, et etc., etc. Fait que, tu sais, on n'a pas fini d'apprendre, on est ici pour apprendre, puis il va falloir apprendre. Alors, je suis entouré d'un ouragan d'informations. J'ai 12 livres autour de moi, puis j'ai 11 documents. Fait qu'il faut que je vous livre tout ça de façon calme, logique et claire. Et puis, si je ne suis pas capable, je vais tout simplement oublier des choses à dire. Je vous les dirai la semaine prochaine. Et ça fait déjà quelques semaines que j'en ajoute, que je me dis, je vais leur dire la semaine prochaine, puis finalement, j'en ai toujours trop à dire. Alors ici, Martine Ouellette du Parti Climat Québec. Je vous ai déjà dit que je trouve qu'il y a un manque de recherche et d'articles actuellement au sujet de la réouverture proposée par la CAQ de l'usine Gentilly, le nucléaire. Alors, je demandais à Martine Ouellette ce qu'elle en pensait. J'ai dit, auriez-vous un texte à propos de la réouverture de Gentilly à Climat Québec? Elle me répond, non, nous n'avons pas produit de texte sur le sujet. J'ai fait quelques entrevues à l'époque de la sortie de Sabia. Pour Climat Québec, il serait aberrant et irresponsable de réouvrir Gentilly. En fait, c'est surtout un ballon d'essai de Sabia qui voulait préparer le terrain aux mini-réacteurs nucléaires en développement. Ces mini-réacteurs nucléaires ne sont pas plus intéressants pour le Québec. Avant de produire plus, il faut mieux utiliser la production que nous avons déjà. Et si nous avons besoin de plus d'électricité, nous avons des sources d'électricité beaucoup plus intéressantes, tant d'un point de vue environnemental qu'économique au Québec, que ce soit l'hydraulique, l'éolien. Toutefois, il faudrait que le privé soit restreint à un rôle de sous-traitant et non pas de propriétaire ou gestionnaire de parcs ou de centrales. Bien, je trouve que ça introduit bien un des thèmes là, qui va venir un peu plus tard, c'est l'efficacité énergétique. Et puis, donc, comme tout le monde, je me dis que les autos électriques, ça coûte cher. Fait qu'il y avait une exposition à Sherbrooke récemment, puis il y avait l'AVEC, Association pour les voitures électriques du Québec, là. Fait que là, je leur ai écrit, j'ai dit « Bonjour, j'ai regardé les prix des véhicules électriques chinois que le gouvernement canadien ne veut autoriser sur le territoire de 13 000 à 20 000 $ ou plus si on veut plus luxueux. Selon vous, sont-ils fiables ces voitures? Sont-elles fiables? Et pourquoi n'en voit-on pas dans l'exposition de voitures électriques, par exemple celle de Sherbrooke, cette fin de semaine? » Alors là, on me dit, l'AVEC a déposé un mémoire à ce sujet récemment lors de la consultation fédérale sur la surtaxe des véhicules électriques chinois. Notre mémoire contient notre vision des choses et voici quelques points. Les véhicules entre 13 et 20 000 $ par exemple la Seagull EV, avaient un prix suggéré de 14 600 aurait sûrement été une bonne chose pour les consommateurs. Les normes de sécurité étant très élevées au Canada, le Transport Canada se serait assuré que de la sécurité des citoyens. Selon nos connaissances, les véhicules de BYD feront un retour prochainement avec leur nouvelle usine qui devrait ouvrir ses portes bientôt au Mexique. Nous sommes contre la surtaxe chinoise car ça réduit l'accessibilité des véhicules. Solliciter les constructeurs chinois pour qu'ils s'installent en Amérique aurait favorisé un accès plus rapide aux véhicules tout en créant des emplois. Nous croyons que le gouvernement aurait dû exiger des constructeurs qu'ils rendent pas disponibles des véhicules plus petits et plus abordables aux consommateurs avant d'ajouter une surtaxe sur les voitures électriques. La surtaxe repousse l'atteinte de nos objectifs de réduction de GES. D'autres avantages comme réduire le taux de financement sur les véhicules électriques ou réduire les taxes pourraient être de bons incitatifs. Réduire les subventions dès maintenant n'est pas non plus une bonne idée. Les véhicules ne sont pas encore à parité. C'est une mesure de protectionnisme et politique stratégique. Nous ne faisons pas habituellement de commentaires politiques. Alors ça, c'est l'AVEC. Association Véhicules électriques du Québec. Qui aimerait ça qu'il y ait des voitures électriques moins chères pour vous et moi. Alors, l'article de la semaine, c'est IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Vous pouvez vous abonner à leur bulletin de nouvelles, de sorte que je n'aurai pas à vous les lire, vous allez pouvoir les lire vous-même. Mais l'article de la semaine, ça s'appelle « Le projet de loi 69 s'inspirer d'un échec pour réformer la politique énergétique du Québec ». Alors ici au Québec, on veut privatiser le bien commun électrique, et on l'a déjà fait au Royaume-Uni, puis là, ils font marche arrière. Alors il faudrait, tu sais, ou éviter de le faire pour éviter de faire une marche arrière. Voilà, c'était IRIS, l'article de la semaine. Donc, vous savez-vous, comme moi, que le nouveau climatoscope qui est produit à l'Université de Sherbrooke. C'est une revue sur les changements climatiques. Elle est sortie récemment. Elle est dans Internet, vous pouvez la voir gratuitement, mais en papier, vous allez pouvoir vous la procurer aussi, soit par la poste, soit en assistant. À quoi? Assistant? Au lancement du numéro. La soirée du lancement du numéro 06 du Climatoscope se fera au Musée des sciences et de la nature, 225 rue Frontenac, le 10 octobre. Et puis, j'ai eu deux articles qui m'ont impressionné. C'est « Limites planétaires, quels apports dans la lutte écologique? » Et puis, l'autre article, c'est « Angle mort des limites planétaires ». C'est d'Olivier Barsalou, qui est professeur au département des sciences juridiques. Il parle beaucoup des déchets, que nous sommes envahis par les déchets, puis qu'il faudrait s'en occuper, parce qu'on a une nouvelle ère qui menace, c'est Mollis-Mosène, M-O-L-Y-S-M-O-C-E-N-E, ou l'ère des déchets. Donc, voilà, tu sais, c'est un peu triste et insécurisant. Mais, moi, je pense à Idriss Aberkane, qui parle d'économie bleue, puis il dit que richesse égale attention multipliée par le temps. C'est-à-dire que si tu mets de l'attention et du temps concernant les déchets, mais tu peux créer de la richesse. Alors, c'est une question que j'aimerais poser à M. Barsalou. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Et puis, comme autre point, j'avais un article de l'ONU. C'est qu'il déplore, M. Guterres, là, les négociations sans fin sur Gaza. Et il réclame un cessez-le-feu immédiat. Alors moi, je me suis dit, cessez-le-feu, ça fait longtemps que j'entends ça. Ça devrait pas plutôt être cessons le feu? Parce que, selon mes lectures de, par exemple, Seymour Melman, dont je vous ai déjà parlé et je vais continuer à le faire, cet ingénieur industriel qui a été pionnier dans l'étude universitaire de la manière de faire la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles, et cet ingénieur qui nous a informé qu'aux États-Unis, l'industrie militaire, c'est la plus grande industrie. C'est plus de 51% de l'économie états-unienne. Et puis, c'est enchevêtré avec nous parce que, exemple, General Dynamics, qui est une des plus grandes industries militaires états-uniennes, eh bien, LSI, à Sherbrooke, ils font semblant de faire un hélicoptère, mais on sait très bien que ça va être un hélicoptère militaire. Et puis, ils sont reliés à Repentigny, qui produit des roquettes pour Gaza. Alors, sachant tout ça, puis sachant qu'en même temps, on pourrait être positif, là, on est capable de faire une conversion de l'industrie militaire à des fins civiles, ce que Buckminster Fuller, dont je vous ai aussi parlé, appelait plus, en méthode plus résumée, « from weaponry to livingry », c'est-à-dire de l'armement à ce qui aide à vivre. Alors, j'ai été inspiré pour écrire ceci. Le titre, c'est « Innovons ». Après ça, c'est « Cessons le feu, éteignons les feux, activons nos esprits créateurs, serrons-nous les mains de la douceur, dans la douceur, faisons accolade avec ferveur, mangeons ensemble avec plaisir, buffet mirifique diversifié, célébrons, réjouissons-nous pour de bon. » Et voilà, je suis cédulé pour vous parler des Premières Nations, faire une chronique là-dessus. Fait que j'ai été inspiré cette semaine par le livre « Paroles de paix en terre autochtone, culture, valeurs et traditions Mohawk ». C'est aux éditions Le Jour. C'est écrit par Glenn Clich et le conseil traditionnel Mohawk de Ganawagi. Moi, j'ai assisté pendant à peu près six mois, là, une fois par semaine, à des réunions au Conseil traditionnel Mohawk de Ganawagé. C'est parce que je voulais apprendre la langue autochtone iroquoise. Et puis après 6 mois, je suis sorti de là sans connaître beaucoup la langue. Pourquoi? Parce que ce qui était enseigné, c'était la constitution iroquoise. Il y avait des mots iroquois. Mais pour eux, la langue, là, c'est parler de la constitution. Alors, cette constitution, elle est importante. Elle s'appelle la Grande Loi de la paix et de la compréhension. Et puis, elle identifie un arbre de la paix qui est le pin blanc. Et dans cette grande loi de la paix, pardon, il y a des wampums, W-A-M-P-U-M-S, qui sont des traités de paix. Fait que les Iroquois, lorsque les Blancs sont arrivés pour la première fois, ils ont donné un wampum à deux voix, qu'ils appellent, pour dire aux Blancs qui arrivent, bien, nous sommes en paix avec vous, nous voulons la paix. Et puis, il avait remarqué que les Blancs européens étaient en mauvaise santé. Ils les ont aidés à retrouver de la santé. Mais la santé retrouvée, les Blancs, malheureusement, ont fait beaucoup de criminalité chez les Autochtones pour réduire la population à presque zéro. Et actuellement, ça remonte, et tant mieux, et bravo. Et puis, dans la Constitution iroquoise, il y avait la matrilinéarité, qu'on peut peut-être associer au matriarcat. Les femmes étaient très importantes chez les Iroquois. Elles prenaient des décisions. Et puis, les États-Unis se sont inspirés de la Constitution iroquoise pour faire leur propre Constitution, mais ont mis de côté, comme il fallait s'y attendre, le matriarcat. Alors, j'ai un, deux, quatre, cinq, j'ai à peu près une quinzaine d'extraits à vous lire, mais c'est trop. Je finirai jamais. Je vous répète le titre, c'est « Paroles de paix en terre autochtone », c'est de Guylaine Clich et le Conseil traditionnel Mohawk. C'est aux éditions Le Jour. Et si ce n'est pas dans les bibliothèques, je pense que oui, là. Mais demandez des prêts entre bibliothèques. Alors, aussi, je voudrais vous dire que la revue Liberté de l'hiver 2019 a publié un article de Richard Desjardins. Ça s'appelle « Les Algonquins de Val-d'Or ». Le cœur te lève, coué, le cœur se lève, le cœur se soulève, et puis se révolte, c'est ce qui va arriver. Pendant des années, et jusqu'à récemment, à l'entrée du IGA de Val-d'Or, on affichait une vingtaine de photos de présumés voleurs à l'étalage, prises à partir des caméras du magasin. À peu près tous les Indiens de ce qu'on pouvait figurer. Des visages un peu flous, inculpés de rien, condamnés d'avance, car, voyez-vous, un soupçon à l'encontre d'un Indien équivaut à une preuve. Là, je saute des paragraphes. Il y a 6 pages. C'est vraiment un très bon article. C'est en réalisant un documentaire sur eux autres, les Algonquins, 50 ans plus tard, que j'ai pu constater la grosse part de vérité contenue dans cette laconique réponse du père. Le père de Richard qui lui avait dit « C'est qui ça, papa? » Il dit « Eux autres, ils ont tout perdu. » Il voulait parler des Algonquins. Desjardins dit que le concept de propriété privée n'existait pas dans leur esprit. On ne possède pas un territoire, nous sommes possédés par lui, disent-ils. En aucun moment de l'histoire, aujourd'hui compris, l'occupation du territoire algonquin n'a fait l'objet d'aucune négociation digne de ce mot. Il y a un temps où la ville de Val-d'Or comptait 2 habitants, Gabriel Commanda, trappeur Anishinaabe, dont la trail s'étendait le long de ce qu'on appelle aujourd'hui la 3e avenue, la terre principale de la ville, et Robert C. Clark, prospecteur américain qui faisait attention pour ne pas se perdre. Un jour, Commanda montra à Clark des roches qui brillaient de façon spéciale. C'était de l'or. Une grosse mine paillante naquit. On remercia Commanda pour cette trouvaille, puis on l'expulsa de son territoire de chasse. Le racisme, c'est pas rien que du criage de nom. Bon, nous avons répondu lors de la sortie du film là, de Desjardins. Le film, ça s'appelle « Le peuple invisible ». On a demandé s'il aurait le même impact que l'aurore boréale auprès de l'opinion publique, entendu que ce dernier ouvrage avait sensiblement graffiné la belle image de notre gestion forestière jusqu'alors relativement bien acceptée par la population. Tout à l'heure, en attendant l'autobus, je voyais un gros camion de bois. C'était marqué « Commonwealth ». Commonwealth, ça veut dire le bien commun. Je me disais, c'est pas vrai. C'est pas du bien commun que tu as là. T'as pris la forêt, t'en prends sur ton camion sans demander de la permission, sans faire une bonne gestion de la foresterie. Alors, je continue. Nous avons répondu que non, la foresterie brassait 20 milliards de dollars par année. Un Indien ne valait rien pantoute. D'aucuns auraient pu rajouter, il nous coûte même de l'argent. Cette phrase-là, combien en a entendu, est la première cartouche du raciste ordinaire. Bon, les Français sont arrivés avec des miroirs. Puis les Indiens, bien, voyez-vous, ils ont été éblouis par ça. Peut-être parce qu'ils voyaient leur propre visage qui était magnifique. Et puis, les Anishinaabeg ont besoin de 25 kilomètres pour chasser, pour survivre. Donc, c'est un peuple de seconde zone, un peuple invisible, dit Desjardins. Alors, je vous ai dit son 6 pages en quelques minutes, là. C'est injuste pour lui, mais allez voir la revue Liberté, hiver 2019. Et puis, il me reste à vous parler du professeur Alain Deneau, qui était à Sherbrooke il y a 2 semaines pour le film La très grande évasion fiscale. Par cœur, là, je pourrais vous dire qu'il a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Et la semaine prochaine, je lirai des extraits de ces livres-là. Mais pour l'instant, le livre qui attire mon attention, c'est celui qu'il a sorti le 3 octobre dernier, qui s'appelle « Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï ». Alors, inouï, premièrement, c'est surprenant parce que moi, j'ai toujours associé le mot inouï à un extrême, soit bonheur ou un extrême... peut-être joie, là, mais... ou surprise positive. Là, c'est la première fois que le mot inouï est associé à une surprise négative. Et puis, juste avant de sauter dans ce livre-là, tout à l'heure, je suis allé à la librairie avant d'arriver en studio, puis j'ai vu un livre que je n'ai pas d'Alain Deneau, c'est « La médiocratie ». Alors, je regarde à la fin, ils disent que parce que les glaciers fondent, parce que le désert avance, parce que les sols s'érodent, parce que les déchets nucléaires irradient, parce que la température planétaire augmente, parce que la température planétaire augmente, parce que les écosystèmes se délitent, parce que l'état social s'écroule, parce que l'économie réduite à la finance s'aliène, parce que les repères philosophiques se perdent, notre époque n'a plus le luxe de se laisser conduire à la petite semaine par les médiocres qui dominent. Alors ça, c'est son livre. Que je vais lire plus tard. Mais le résumé que je viens de vous lire, je vois bien que dans « Faire que », son dernier livre, il dit pas mal sensiblement la même chose, tout en pointant le doigt vers une solution qui pourrait être de s'investir dans les biorégions. Alors, normalement, dans l'évasion fiscale, le professeur Alain Deneau, qui désormais enseigne à Chipagan, au Nouveau-Brunswick, lieu qu'il appelle son asile politique, parce que malheureusement, après que son livre « Noir Canada » eut été attaqué par une mine d'or à coût de 12 millions de dollars, là, il y a eu une entente en cours, et puis le livre « Noir Canada » a été retiré de la circulation publique. On ne peut pas le trouver. Mais j'ai entendu dire qu'il est à la bibliothèque de Magog. C'est-à-dire peut-être qu'il était là avant que la décision soit prise dans le procès. Et puis, encore là, quelques minutes de patience, là, je vais vous dire que l'endo que je viens de vous lire, ça me fait penser qu'il faut une réforme de la démocratie pour arrêter que les médiocres qui dominent. Alors, la réforme de la démocratie, moi... Ça me fait penser à Roméo Bouchard et André Larocque qui ont écrit des livres comme, par exemple, « Décentralisons-nous pour une sortie de crise digne du Québec »,« Constituer le Québec » et René Lévesque, un héritage démocratique toujours d'actualité, puis Robert Burns, le ministre de la démocratie. Alors, disons, en gros, là-dedans, ça parle de décentralisation. Ça veut dire démocratie territoriale, ça veut dire donner plus de pouvoir aux régions. Alors, c'est tout à fait dans la ligne de la biorégion de Alain Deneau. Et puis, c'est aussi l'écriture citoyenne de la Constitution pour justement que le peuple s'exprime dans la Constitution. Alors, ce qui m'amène au livre « Faire que » de Alain Deneau. Et puis, entre parenthèses, il parle du livre « Le syndrome de l'autruche ». Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique. Alors, je vous suggère de lire ça. Je l'ai trouvé à la bibliothèque Eva Sénégal. Très intéressant. Bon. Lorsqu'il est venu parler du film L'évasion fiscale, il a dit quand même un mot de la biorégion. Il dit qu'il est temps d'agir, que faire des biorégions, c'est impératif, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. Pourquoi? À cause de très probable probable bris d'approvisionnement qui nous amène la nourriture, tout ça. Et aussi une difficulté possible dans la production de puces informatiques parce qu'il manque d'eau. Alors, puis l'autre raison, c'est que le changement climatique, ça devient une spirale autonome. Bon, si on arrêtait les gaz à effet de serre tout de suite, on aurait quand même des effets, au moins jusqu'à 2050, à cause des gaz à effet de serre déjà présents. Et puis, si on les arrête plus tard, il va y avoir des effets au moins jusqu'à 2100. Alors, nous, vous et moi, pour Alain Denoux, nous sommes l'avant-garde. Nous devons nous renseigner, réfléchir et passer maintenant à une plus petite échelle pour se gérer. Donc, se renseigner, réfléchir, on le fait ensemble maintenant et je vous encourage à continuer à le faire lorsque l'émission sera terminée. Puis se gérer à plus petite échelle, c'est la biorégion. Puis nous sommes chanceux d'avoir un conseil régional de l'environnement qui n'est pas politique, mais qui pourrait peut-être guider, là, aider à faire une biorégion. Et pas seulement une, parce que dans les cantons de l'Est, il y a sûrement plusieurs biorégions. Et puis, c'est un concept flou. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une très grande exactitude chez Alain Denoux pour l'évasion fiscale. Tu sais, telle compagnie prend tant d'argent. Il y a un article dans l'économie distributive qui disait que l'évasion fiscale, c'est la moitié de l'argent de la terre qu'ils ont dans, tu sais, les paradis fiscaux. Je trouve ça beaucoup. Est-ce que c'est autant que ça? En tout cas, c'est beaucoup. Fait que M. Denoux dit que cet argent-là devrait être laissé dans les coffres de l'État pour que ce soit investi pour réparer les infrastructures et aider à éliminer la pauvreté. Alors ici, page 31-32 du livre « Que faire? » Non, pas « Que faire? »« Faire que? » point d'exclamation. L'engagement politique à l'aide de l'Inouï. Puis là, je me rends compte que j'ai laissé passer le temps. Fait que j'arrête pour le moment, là. Je vous reviens dans quelques instants pour une publicité. Et puis, blablabla, de retour à nous le futur avec Claude Saint-Georges. Vous savez, dans le Climatoscope, j'ai lu un article. Et puis, cet article-là, il y a un poème. Puis le poème est non seulement écrit, il est aussi audio. Alors, j'ai demandé et la radio me le rend disponible et je vous le transmets.
À propos des limites. Introduction au monde d'après. Bienvenue dans le monde d'après, où la question qui nous habite se décline à l'infini. Comment rend-on la vie habitable à force d'avoir cessé d'habiter les nôtres ? Bienvenue dans le monde d'après, où il semblerait que nous ayons dépassé 6 des 9 limites planétaires. 1.1. Ériger notre liste de fin du monde. Changement climatique, check. Intégrité de la biodiversité, check. Cycle de l'azote et du phosphore, check. Trous dans la couche d'ozone, acidification des océans, cycle de l'eau douce, check. Transformation des territoires, check. Charge en aérosol dans l'atmosphère, pollution chimique, check. Aïe. Le monde d'après, le nôtre, se pense en fonction de sa propre fin. Il faut parvenir à garder la terre. C'est quoi la recette, donc ? La terre n'y peut rien, les limites sont franchies, franchissables par un noyau d'affranchis qui dicte sa cadence. Il faut parvenir à garder la terre. Notre définition de la réussite impose d'accéder à l'inaccessible, franchir l'infranchissable, marquer notre présence en tout lieu. Même encore inconnu. Nos besoins ne seront jamais rassasiés, nous dépassons les limites, toujours, au détriment de ceux qui comptent vraiment. Après combien de plans d'eau offerts à l'industrie minière, après combien de degrés de réchauffement supplémentaires, après combien d'espèces éteintes ? 1, 2, 3. Ce que l'on nomme progrès nous rend sourds et aveugles. 4, 5, 6. J'ai beau hurler, es-tu sidéré, blessé, révolté, que ressens-tu ? Rien ? Pendant qu'on regarde ailleurs, c'est la beauté qui meurt, nos maisons, les pieds dans l'eau, l'inondation de trop, les albums photos, nos arbres centenaires, les besoins de l'industrie, des usines de batteries. 7, 8, 9. Quand comprendras-tu qu'à ce jeu-là, on ne gagnera pas? Nous ne sommes rien et tout en même temps. Nous savons tant et si peu à la fois. Nous dépassons les limites sans vraiment les connaître. Nous devons guérir d'un cancer inconnu. Nous devons courir à notre encontre. Nous devons, nous devons, nous devons. Le pompage de ressources comme raison d'être. Sommes-nous venus au monde pour l'asservir? Nous grugeons nos territoires de sérénité, notre besoin de consolation est immense. Bientôt, le fleuve n'aura plus assez de bras pour nous cueillir. À quoi rêverons-nous lorsqu'auront disparu les nuées des tourneaux? Tu penses qu'ils vont parvenir à nous faire perdre la terre? On m'a dit un jour, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Il restera toujours des peuples qui se soulèvent, des fleurs qui percent le béton et le fleuve portant en lui notre soif de justice. 1.2. Poser nos limites. Écoute. Quelque chose bout en toi. Ressens. Les racines d'autres possibles se déploient sous nos pieds. Dis-leur qu'ils ont dépassé les limites. Lève-toi. C'est à nous d'écrire une autre suite du monde.
Alors, merci, madame, qui avait écrit cela dans la revue Climatoscope, disponible en PDF dans Internet, ou bien il y aura un lancement le 10 octobre au Musée Nature et des Sciences sous la rue Frontenac, 225 Frontenac, Sherbrooke. Alors, je reviens à Alain Deneau, le livre « Faire que », page 31. Mais que le dit régime table sur l'existence de 3,5 planètes Terre alors qu'il n'y en a qu'une, qu'il use de l'atmosphère comme d'un dépotoir, qu'il épuise l'eau douce, épande des pesticides dans le sol et répande les hormones de croissance dans la viande, saccage les fragiles mais indispensables coraux des mers, colonise de ses produits chimiques le vivant, nous encombre d'un continent de déchets en plastique, qu'il brasse en l'air les cocktails minéraux toxiques naturellement enfouis, qu'il génère des va-nu-pieds par milliards et tout autant de révoltés. Tout cela témoigne de ce que ces animateurs et bénéficiaires ne savent compter qu'à court terme. Quid du canal de Panama asséché qui empêche la circulation du flot de marchandises? C'est un point d'interrogation. Quid d'un régime voué au tout numérique malgré la pénurie de minerais annoncée? Quid des révoltes de damnés de la Terre? Quid de l'épuisement énergétique? Quid du grand désordre mondial qui provoque déjà la crise écologique? Le voilà qui nous entraîne collectivement dans sa chute parce qu'il sape ses propres conditions de possibilité en même temps qu'il requiert toujours plus de croissance. Marx, 2. Ce n'est que lorsque le toit lui tombe sur la tête que le bourgeois comprend la loi de la gravité. On va aller voir à la page 76 qu'est-ce que Alain Deneau nous écrit. Spécialiste des communications, Georges Marshall a dénombré les dizaines de façons que trouve la psyché de se détourner d'une inévitable catastrophe. Georges Marshall, c'est l'auteur du livre « Le syndrome de l'autruche » dont je vous ai déjà parlé. Alain Deneau dit que lucidité et gaieté sont nos dispositions psychiques maîtresses pour l'avenir. L'une sans l'autre est mortifère. La lucidité ombrageuse quant au monde qui s'achève ne peut que dégénérer dans la panique. La gaieté sans la lucidité ne peut qu'être l'occasion de déni stupide. Fait qu'il donne un exemple de Albrecht. C'est le symbiocène qui désigne une ère à venir où les sociétés s'inspireront des formes et processus symbiotiques. Je suis bien content parce que j'ai passé l'année dernière à vous parler du symbiocène. Alors, j'étais à point, finalement. 162, 163, on va lire ça. À l'instar du battement d'aile d'un papillon, une simple puce pourra les fragiliser. Il donne un exemple. Les fabricants de semi-conducteurs, les puces électroniques, privilégient 3 critères lors du choix de leur site d'implantation. La proximité avec leur plus gros client, le faible coût de l'énergie et un accès sans restriction à l'eau. L'importance de ce dernier critère, l'abondance des réserves d'eau, provient du fait qu'en moyenne, une wafer fab, c'est-à-dire une usine, utilise jusqu'à 15 millions de litres d'eau par jour. L'eau doit être ultra pure pour débarrasser les puces des produits contaminants. Il faut à peu près 2 litres d'eau du robinet pour produire 1 litre d'eau pure. Toutefois, en raison de la concurrence acharnée et, dans certains pays, de l'allongement de la saison sèche, ces ressources en eau sont de plus en plus limitées. Les bris d'approvisionnement, les interruptions de gaz et d'électricité, les stations-service momentanément fermées, la vie chère et les soulèvements sourds auront raison de manières de langue de bois qui croient les mensonges qu'ils racontent, car c'est tout ce à quoi ils donnent droit eux-mêmes. Alors, l'entretien du réseau informatique mondial en dépend et les assureurs ne savent plus comment estimer le risque. On n'exploite pas sans ressac une planète comme si elle en avait 3,5. Les grandes enseignes ne parviendront pas à garder, sauf illusion, d'une abondance infinie de marchandises. J'achève les citations, faites-vous en pas. 171. La réflexion biorégionale comporte des débats et des contradictions. Murray Bookchin en est, ce pionnier de l'écologie sociale, une référence dans le courant biorégional, tempère certains accents résolument naturalistes, d'autres intellectuels du mouvement comme Kirkpatrick Sale. Bon, alors c'est ça, je vous encourage à lire Murray Bookchin. Une conception juste du territoire concerne les besoins et aspirations de ceux qui l'habitent. Nécessairement décroissante, la biorégion n'est pas pour autant synonyme d'austérité ou de privation, mais d'un rapport de participation et de responsabilité relativement aux bienfaits que l'endroit peut générer pour l'ensemble du vivant. C'est ça, c'est un peu la bonne nouvelle, que la biorégion, une petite échelle qui pourrait nous aider à bien survivre, si toutefois ça en occupe bien, n'est-ce pas? Fait que pour faire une biorégion, on pourrait demander de l'aide des départements de géographie, de biologie, c'est afin de délimiter c'est quoi une biorégion pour nous, et puis département de psychologie et d'aide juridique et d'économie. T'sais, faire participer l'université à la création de nouvelles biorégions. Les pionniers de la pensée biorégionale, le biologiste Raymond F. Dassmann et le politique Peter Berg ont hautement considéré les sciences dans leur première topographie californienne. Bon, appelons sapience ce savoir des anciens, ces notions populaires qui surprennent le savant par leur justesse et leur pertinence. La maîtrise des vents, la connaissance du climat ou les notions d'herboristerie médicale sont autant de savoirs qui circulent dans les lieux que n'autorise pas la science officielle. Les gens n'acceptent jamais qu'on retourne en arrière pour suivre des auteurs, là. Certains de pouvoir disposer de questions faciles telles que la pénurie énergétique, les prix d'approvisionnement marchands ou le vacillement des institutions publiques. La permaculture consiste en une science qui obtient bien davantage d'une terre que ne le pouvaient nos semblables du 18e siècle. Les savoir-faire en matière d'habitation nous conduisent aujourd'hui à fabriquer en paille compressée des maisons qui ne sont plus inflammables, pardon, qui ne sont pas plus inflammables que celles que nous érigeons à fort coût écologique. Bon, OK. Et puis, 182. Élaborer sa propre autonomie plutôt que d'apparaître au capital financier et politique comme un lointain marché, une région de ressources, une colonie. Pour Bookchin, il ne peut y avoir d'écologie politique, serait-elle nécessairement biorégionale, que si un peu de marxisme la compose. La thèse, deux points. Pour cesser de se percevoir comme les maîtres incontestés de la nature, les êtres humains doivent d'abord apprendre à cesser de se dominer entre eux. D'où l'entraide, et d'où l'entraide écologique, parce que l'entraide écologique, c'est un mot que j'ai vu en rêve. Et puis, René Lévesque se définissait comme social-démocrate. Ou un démocrate social, finalement. Puis moi, je me dis que, à défaut de marxisme, on pourrait peut-être parler d'éco-démocratie sociale. Je pense que c'est pas mal égal au marxisme écologique. Et puis, bon, ben là, je voulais vous dire un mot du terrorisme alimentaire, comment les multinationales affament le monde. C'est un livre de Vandana Shiva, un des 12 dont je voulais vous parler. Je vous dis que ça existe. Par exemple, elle critique Monsanto, là, et les gens qui mettent de côté les semences pour nous en priver. Fait que, par ailleurs, elle a écrit plus tard, là, un livre beaucoup plus optimiste qui s'appelle « Une agriculture qui répare la planète, les promesses de l'agriculture biologique régénérative ». Madame Shiva, qui est physicienne et agricultrice, dit que l'agriculture émet 50 % des gaz à effet de serre. C'est beaucoup, c'est surprenant. Mais elle voit le système agricole dans son ensemble. Elle inclut le transport et les déchets, tout ça. Alors, un autre livre optimiste qui permet de compenser pour le pessimisme du terrorisme alimentaire, c'est le livre « Terra Madre, renouer avec la chaîne vertueuse de l'alimentation ». C'est de Carlo Petrini, le fondateur du groupe Slow Food. Et l'image de Slow Food, c'est une limace qui avance très lentement. Je ne sais pas si c'est limace, le mot. Là. Escargot, c'est le bon mot. C'est un animal qui avance très lentement. Et puis, Slow Food propose, comme j'en parlais la semaine dernière, l'agroécologie, disant que l'agriculture industrielle, comme je le disais aussi, mais je le répète, est responsable de 15 000 milliards de dollars de dégâts. Et c'est l'équivalent de 12 % du produit intérieur brut mondial. Alors là, je vous parle de monde, etc., tu sais, mais le local, ça existe. Et la preuve, c'est que moi, j'ai une ferme bio à 1 kilomètre de chez moi, c'est la ferme Bibo. Et si vous allez voir ferme Bibo dans Internet, vous allez voir que dans ces amis-là, il y a le CAPE, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. C'est super intéressant. Il y a des projets d'éducation et un projet pilote Estrie. Alors, allez voir ça, CAPE. Puis dans un autre des 12 livres dont je voulais vous parler, c'est « Le gaspillage alimentaire » de Estelle Richard. C'est une Québécoise fait qui a fait aussi... elle a développé au sein des Amis de la Terre là, le projet « Sauve ta bouffe ». Fait que sauve ta bouche, mais sauve ta bouffe aussi. Fait que c'est super, très bien informé, là. Je vous suggère de lire ça pour en finir avec le gaspillage alimentaire. Et ça, je vous dis ça pour introduire un événement auquel j'ai assisté mardi le 8 octobre. Ça s'appelait « Journée de la sécurité alimentaire » organisée par Champ d'Action, C-H-A-M-P. C'est un collectif en sécurité alimentaire à Sherbrooke. Donc, il y a eu une conférence de Nathalie Collin, qui est directrice générale des complices alimentaires de la Montérégie Ouest. C'est super ce qu'elle disait. Il va y avoir des... tu sais, le PowerPoint en français, c'est des rapports informatiques là, de disponibles. Et puis, il y a eu un panel où des gens du Programme alimentaire scolaire universel du Québec qui parlaient des petits déjeuners et la cantine pour tous, là. Il y a aussi une étude du réseau des cuisines collectives du Québec qui a été faite par Jessica Dufresne, qui est chargée de projet en droit à l'alimentation. Donc, elle, c'est une docteure en droit. Et puis, elle a travaillé beaucoup pour le droit à l'alimentation. Alors, j'ai cherché dans Internet et j'ai trouvé son article. Un de ces articles, c'est la réalisation du droit à l'alimentation dans le contexte de la Fédération canadienne. Quel rôle pour les municipalités québécoises? Alors, je vous suggère d'aller voir ça. Elle chicane un peu le Canada et le Québec de ne pas avoir un droit à l'alimentation pratique, concret. Et puis, il y a eu une pause de dîner, un repas offert gratuitement. Merci beaucoup. Et puis, il y a eu un atelier de consultation participative par Marie-France Audet, qui travaille à la ville de Sherbrooke, qui travaille sur le projet de développement d'une communauté nourricière. Ce projet-là, avec le projet de développement d'une communauté agricole ou de la zone agricole, les deux ensemble, ça fait un système de santé, système d'alimentation. Tu sais. Fait que c'est là qu'on entend parler de littératie alimentaire. Puis il y a M. Samuel Comtois, qui est agronome, qui nous a fait faire... un jeu ensemble là, pour essayer de trouver des coups de cœur. Puis moi, à ma table, la table 9, le coup de cœur, c'était une maison de quartier alimentaire où il se faisait de la... où il se ferait de la littératie alimentaire. Alors, je vous reviens bientôt. Pause musicale et publicité. Oui, waouh, c'était coriace et printemps. Très intéressant. Et puis, j'ai parlé de René Lévesque tout à l'heure, puis justement, il parle de René Lévesque dans la chanson. Je me demande si la direction n'écoute pas, puis il met des chansons pour accompagner ce que je fais. Non, en tout cas, c'est juste un hasard comme ça. Fait que l'efficacité énergétique, c'est un thème dont je n'ai pas pour beaucoup parlé. Amaury Lovin, c'est le père de... c'est le gourou, tu sais, le père de l'efficacité énergétique, là. C'est un physicien puis qui a fait un institut au Colorado. Ça s'appelle RMI. Je ne sais plus c'est quoi RMI. Ah oui, Rocky Mountain Institute. Où c'est un endroit où il fournit de l'information, où il génère de l'information pour nous montrer comment faire de l'efficacité, non seulement énergétique, mais en eau aussi. Et puis sûrement en dépenses gouvernementales également. Là. Donc, le Colorado, ça fait ça là comme température l'hiver, un peu comme ici, même plus qu'ici, moins 40 degrés parfois. Et lui, il a fait une maison en mettant le meilleur de la technologie existante là, pour économiser de l'énergie, les meilleures fenêtres qui existaient, les meilleurs planchers, etc. Et puis, il dit qu'il n'a presque pas besoin d'électricité, là. Tu sais, le grille-pain, là, il exagère sûrement, mais le grille-pain suffit, dit-il, mais en tout cas, tu sais. Fait que c'est presque rien comme électricité que ça prend, cette maison-là. Fait que ce serait intéressant de visiter, tu sais. Il faudrait y aller à pied, là, pour pas dépenser des gaz à effet de serre. Et puis, il donne un exemple dans son livre, « A Fable for America's Future », c'est « Energy Unbound ». Bon, évidemment, il parle des fenêtres qui empêchent de sortir la chaleur dehors. Mais il donne un exemple intéressant, c'est les frigidaires qu'on avait dans les années 50. Le moteur était sur le frigidaire, de sorte que la chaleur générée par le moteur allait en haut. Tandis qu'aujourd'hui, au nom du modernisme, un modernisme un peu aveugle, le moteur est en bas, si bien que la chaleur monte dans le frigidaire et... ça prend plus d'énergie pour refroidir la chaleur que lui-même émet. Alors, c'est un peu ridicule. Fait que, comme autre exemple de l'inefficacité, c'est pas lui qui l'a dit, là, à Amaury Lovin. Cette fois-là, c'est encore Seymour Melman dans son livre « Profits without production ». C'est l'industrie militaire américaine qui fait des profits sans rien produire, à part que des armes pour détruire, puis avec trop détruire, tu sais. Il y avait en 1970 à peu près 300 fois de capacité d'overkill, de tuer tout le monde, 300 fois. Aujourd'hui, c'est à peu près 50 fois. T'sais. Mais une fois, c'est assez. Là. Fait que M. Melman dit que sur les routes des États-Unis, c'est inefficace parce que les trains électriques... c'est beaucoup plus efficace que les autobus, les avions ou les automobiles. Et puis, en 1981, dit-il, il fallait reconstruire 2000 milles des routes par année aux États-Unis et qu'il y avait 13 % des ponts à reconstruire. Fait que ça coûtait 700 milliards de dollars, puis cet argent-là allait plutôt dans le militaire que dans le civil. Et pour continuer sur l'efficacité, moi, je suis abonné au Passive House, P-A-S-S-I-V-H-A-U-S, les maisons passives québécoises. Là. Fait que je vous donne la définition de Passive House. C'est la norme Passive House, est une norme de construction internationale fiable et éprouvée qui permet d'améliorer substantiellement l'efficacité énergétique. En parenthèse, c'est jusqu'à 90 % moins d'énergie consommée. Et le confort thermique dans un bâtiment. Fait que voilà les passive house. Pourquoi bâtir une passive house? Ben c'est ça, c'est pour justement économiser 90 % de l'énergie et de l'eau aussi, là, si on prend les nouveaux progrès. Fait que ça, c'est un article. C'est construction rocket www.lecivisme.com. Ça, c'est québécois. Et puis, bon, dans les livres de Simon Melman, il y en a un que Schumacher, l'auteur de Small is Beautiful, a écrit des articles. T'sais. Mais Schumacher, c'est une personne très importante à connaître. C'est celui qui a parlé de la technologie appropriée ou intermédiaire. C'est une technologie à petite échelle, décentralisée, à forte utilisation de main-d'œuvre, économe en énergie, respectueuse de l'environnement et localement contrôlée. Donc, allez voir ça dans Wikipédia, technologie intermédiaire. Fait qu'il faudrait s'enligner là-dedans. Et puis, croyez ou non, j'ai fini de vous parler des 12 livres dont je voulais vous parler et des 11 documents à peu près. Fait que c'était un ouragan monstrueux d'informations. Et même si vous ne pouvez pas accéder à tout immédiatement, vous pouvez réécouter l'émission parce que vendredi, elle sera en ligne. Ça sera un balado. Alors, mon nom est Claude Saint-Georges. C'est à nous le futur. On voit que c'est sombre et que ça va mal, mais on voit aussi que ça pourrait très bien aller. Nous avons toutes les solutions en main. Nous sommes pas mal responsables des problèmes. Bien, pas tous, là. T'sais, l'industrie militaire, beaucoup, on a de la misère à la contrôler. Mais nous sommes aussi responsables et nous avons la capacité de co-créer un bel avenir. C'est ce que je vous souhaite. Je commence par vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et comme disait mon père, portez-vous bien, sinon lâchez-vous. Ici Claude pour un autre futur. Salut!